Lille Info sur Radio Campus, c'est chaque mercredi à partir de 17h30. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Patrice Cerniclet, secrétaire général de Lille. Bonjour M. Cerniclet.
Bonjour.
Donc, Lille, une grande université, ça a besoin d'une structuration forte, je présume. Vous êtes en gros le coordinateur de cette coordination, le grand Manitou de...
Grand Manitou, je ne sais pas, mais le secrétaire général, puisque vous m'interrogez sur sa mission ou son rôle, c'est effectivement un rôle à la fois de responsabilité des services, donc non seulement dans leur formation, dans leur fonctionnement, mais dans leur organisation. Donc, lorsqu'il faut les faire évoluer, les restructurer, le rôle du secrétaire général, c'est d'essayer d'analyser la situation et de proposer une évolution lorsqu'elle est nécessaire. Entre autres, puisque dans la mission du secrétaire général, il y a aussi beaucoup d'autres aspects, en particulier celui de conseil et de management, de conseil du président, par exemple, et de management général de l'organisation.
Alors, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, vous aviez focalisé l'émission sur comment s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux logiciels, à la nouvelle gestion de l'université. Comment ça s'est passé aussi, d'ailleurs, depuis ?
Oui, l'évolution, elle n'est pas forcément uniquement sur les nouvelles technologies, parce que la fois précédente, effectivement, j'ai beaucoup parlé de technologies de l'information ou d'informatique, pour parler plus simplement, et je ne voudrais pas me laisser repiéger comme la fois précédente.
C'est pour ça qu'on fait le point juste là-dessus, et après on parle
à reparler d'évolution des technologies, puisque effectivement, au quotidien, dans nos méthodes et dans nos outils de travail, quand je dis nos outils, c'est ceux des collègues dans les bureaux, dans les services, dans les services de gestion de terrain, ces technologies informatiques sont très présentes et il faut veiller à les suivre, puisque le monde est ainsi fait que il y a 20 ans il n'y avait pas Internet, aujourd'hui il y a Internet, qu'aujourd'hui on se promène pratiquement tous ou la plupart d'entre nous avec un ordinateur portable, un organizer sur nous, que nous sommes en permanence connectés et que dans la vie de travail il faut tenir compte de l'ensemble de ces outils pour rester dans le coup.
Voilà, donc ceci étant dit, l'appel au personnel que vous aviez lancé, est-ce qu'il était bien reçu ?
Alors, je pense que c'est reçu en tout cas dans la sérénité, parce que mon action depuis mon arrivée, elle s'est plutôt portée aux côtés du président. Naturellement, moi je ne suis là que pour aider la réalisation des objectifs politiques de l'université. Avec les services, nous mettons en œuvre. Et on assure la cohérence du fonctionnement général. Mon action depuis mon arrivée, elle s'est portée sur quelques grands dossiers de l'université. D'abord d'apporter toute l'aide dont j'étais capable avec, encore une fois, les services sur la constitution du dossier campus, qui a été un gros challenge de plusieurs mois pour l'université. Donc ça, c'était un très gros travail. Autre travail qui est venu pratiquement en chevauchement, puisque le lancement des opérations, c'était début juillet pour un aboutissement au 15 octobre, c'est le dossier de contrat quadriennal. Donc entre ces gros dossiers auxquels j'ai participé, naturellement, se sont glissées d'autres actions. Vous parliez de restructuration, je ne sais pas si vous pensez à quelque chose de particulier, mais sur l'organisation des services, nous avons lancé donc un certain nombre de restructurations plus ou moins importantes selon les services.
Alors, est-ce que le fait d'avoir pour cette troisième année consécutive une parution dans le classement des meilleures universités mondiales, on peut peut-être revenir là-dessus, ça donne un coup de fouet, ça marque bien à la fois l'évolution, les perspectives aussi. Est-ce que c'est important pour une université comme Lille d'être dans le Time Higher Education comme, j'allais dire, 9e université de la région de France,
de France, oui, un peu plus, qui ont été classés dans le Times. Un classement, ça a surtout une portée symbolique et ça ne peut pas être pris isolément. Parce que d'abord, la manière dont on constitue les classements, c'est toujours sujet à discussion, voire à polémique. Quand on prend le classement de Shanghai, bon,
y a
toujours discuter. Voilà.
Shanghai, ouais.
Mais y être, c'est toujours plutôt positif. Mmh. Alors, est-ce que c'est suffisant? Sûrement pas. Parce que j'imagine que pour la plupart de nos étudiants, choisir l'université de Lille, ça n'a pas été construit que sur ce critère-là. Sinon, ça se saurait. Mmh. Je dirais que notre enjeu, au-delà d'être dans un classement, c'est d'abord d'avoir une offre de formation qui soit attractive, d'être excellent en recherche et être bien géré. Et tous ces critères mis bout à bout, si en plus on est retenu dans des classements type Shanghai, ça permet, et là ça devient très intéressant, d'avoir une visibilité nationale, européenne, internationale qui est là tout à fait nécessaire aujourd'hui.
Alors, on disait 9e en France au niveau de l'université. On peut dire, il faut relativiser, 382e au niveau international.
Au classement de Shanghai.
Voilà. Et on va quand même reprendre les indicateurs qui sont assez intéressants. Il y a, par exemple, l'avis des pairs par le biais d'une enquête. Il y a l'avis des recruteurs aussi par le biais d'une enquête. Il y a le taux d'encadrement des étudiants. Le nombre de citations dans les revues scientifiques sur 5 ans, le nombre d'étudiants internationaux, le taux d'enseignants et des chercheurs internationaux. Ça, au-delà du fait de paraître dans un journal, il y a quand même des indicateurs et là-dessus, vous avez évidemment visibilité sur tous ces points et donc de les faire évoluer dans le bon sens, je présume.
Oui, mais il y a des choses qui ne se décrètent pas, elles se font sur la durée. C'est pour ça que je parlais globalement de qualité, on peut parler d'excellence en matière de recherche. Il s'agit bien de travailler en profondeur pour faire évoluer les choses et pas simplement en surface pour faire bouger un critère sur lequel on pourrait avoir une action plus directe parce que ça n'aurait pas vraiment de sens. Mm-hmm. Je pense par exemple, il doit y avoir un critère dans le classement de Shanghai qui concerne les alumni, les anciens. Bon, dans une université comme Lille, le réseau des anciens pratiquement n'existe pas. Mmh. Il n'est pas organisé, il n'est pas mis en place. Si vous allez dans une université à l'étranger, à Boston, ou dans les grandes écoles en France, elles bénéficient toutes d'une organisation qui leur permet de mettre en avant un réseau d'anciens considérable. Bon, vous voyez, et ça, dans le classement de Shanghai, ça intervient, et nous, sur ce critère-là, on n'est pas très bon parce que ce n'est pas la culture universitaire mmh. classique. Donc, encore une fois, on ne travaille pas pour un classement, on travaille pour l'excellence, pour être bon. Si en plus on a le classement, c'est bien parce que ça permet d'être distinguable, d'être repéré pour des étudiants, et ça c'est important, pour des étudiants qui sont aujourd'hui à Pékin, à Tianjin, ou dans une grande ville étrangère, n'importe laquelle, choisir une université ou chercher une université pour un master, par exemple, ou pour venir faire une thèse ou un postdoc, et se dire que, tiens, Lille, ils sont dans le classement de Shanghai, ça veut dire qu'on est quand même dans un groupe d'universités qui sont parmi les très bonnes ou les meilleures au niveau mondial.
Mmh. C'est vrai qu'il y a une étudiante chinoise l'autre jour qui m'a envoyé un mail de Chine pour me demander si telle école était intéressante, réputée. En fait, c'est une école parisienne qui était vraiment assez nulle d'après tous les classements que j'ai pu lire. Donc c'est curieux, entre le fait de connaître une école de l'étranger et le fait qu'elle soit bien classée, parfois les gens ont l'impression qu'une école, je ne sais pas comment ils arrivent à accéder, d'ailleurs sûrement par Internet, je suppose que certaines écoles ont de bons outils Internet et d'autres moins.
Ah ben ça si vous faites référence au référencement, lorsqu'on tape une référence sur Google, bon c'est sûr que ça se travaille, mais vous voyez, on quitte le domaine à peu près objectif de l'excellence et de l'évaluation de la recherche, par exemple avec des laboratoires qui sont classés, qui sont A+, qui sont A, qui ont une dimension internationale, une réputation, etc. On quitte ce registre-là pour passer dans celui de la communication. Mm-hmm. Alors, figurer au classement de Shanghai, c'est un excellent argument sous forme de communication parce que ça peut attirer l'attention et conduire un étudiant étranger ou français à regarder ce que c'est que cette université qui se trouve être dans les 400 premières ou 500 premières du classement de Shanghai. Mmh.
Voilà.
Et il en faut de la communication. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans communication.
Oui, je pense. Hein. D'ailleurs, tous les chercheurs aussi voudraient bien qu'on communique sur leurs travaux de recherche.
Oui, mais ça, c'est le rôle des congrès, des colloques, de tout ce qui peut être organisé autour de l'activité de recherche pour faciliter les échanges entre les chercheurs et puis aussi faire connaître les travaux des laboratoires. C'est très important Et vous voyez, là, on va toucher à un autre aspect de notre organisation logistique, et ça revient un petit peu sur le travail du secrétaire général ou de l'ancien directeur de CROUS que je suis. C'est de disposer autour de la recherche d'un environnement de logistique, d'une intendance, pour parler clair, qui permette aux chercheurs, sans avoir à trop se faire de soucis, sans que ce soit trop compliqué, de pouvoir inviter d'autres chercheurs étrangers dans une gamme de prix qui soit compatible avec le niveau de vie du chercheur s'il vient d'un pays où il n'y a pas trop d'argent, que ce ne soit pas compliqué sur le plan des procédures d'hébergement, de restauration, d'accueil de la famille s'il vient avec une famille. Pareil pour les chercheurs ou les laboratoires, pouvoir organiser un colloque ou un congrès scientifique, moi dans ma vie j'en ai organisé de nombreux, en assurant une logistique aisée, par exemple pour que le labo qui organise un colloque puisse faire que les paiements se fassent par carte bleue, qu'on n'ait pas de problème de virements internationaux, que tout soit en place, c'est-à-dire disposer de salles d'un standing suffisant. Vous voyez, il y a un environnement autour de l'activité de recherche qui n'est pas la recherche, mais qui fait que la vie du chercheur, elle est plus ou moins facile. Or, la recherche à l'INA, c'est quelque chose de fondamental. Moi, j'étais à l'université de Bourgogne avant d'arriver ici. Lorsque j'ai dit autour de moi que j'avais été choisi pour être secrétaire général de cette université, de l'INA, à chaque fois, on m'a dit « Ah, l'INA, la recherche mm-hmm. ». Et l'image de marque de l'université Lille 1, à l'extérieur, les collègues, etc., c'est la recherche. Il y a une réputation autour de la recherche. Et je pense que, je vous parlais de la logistique des congrès, mais autour de l'hébergement, par exemple, je crois qu'il y a une nécessité, et ça figure dans le contrat quadriennal, d'arriver à résoudre ces problèmes de quotidien, d'hébergement, etc., qui font que les choses ne sont pas forcément simples.
Alors, ces congrès ou ces colloques, Lilin, chaque année, on accueille combien ?
Alors, je n'en ai pas la moindre idée. Je pense qu'il y en a beaucoup. Parce que je vois du fléchage, parce que je vois, mais en nombre, si je devais donner une estimation, je pense que si on prend les journées scientifiques, les workshops, donc vous savez, dans les colloques, il y a les tout petits avec 20, 30, 40 personnes, et puis les très gros, moi j'en ai organisé à plus de 1200 personnes. Bon, on a tout un registre, donc je ne sais pas, il doit y en avoir vraisemblablement de l'ordre d'une trentaine par an.
Sur l'île,
qui est considérable.
Quelles sont les infrastructures qui permettent d'accueillir les colloques de renom ?
Mais je veux dire que pour l'instant, je ne les connais pas suffisamment pour pouvoir en parler très précisément. Ce que je connais, c'est ce que propose le CROUS. Et la difficulté du CROUS, c'est de ne pas forcément avoir suffisamment de places disponibles au moment où on le souhaiterait, et dans le standing disponible, suffisant pour accueillir des chercheurs. Bon, la chambre d'étudiants de 9 mètres carrés dans les résidences traditionnelles, c'est bien parce que ça remplit une mission. Je veux dire, il ne faut pas non plus jeter bébé avec l'eau du bain. Mais lorsqu'on organise un colloque, ce n'est pas nécessairement ce que le chercheur attend.
Alors, il y a sur l'université, il y a la MAC, par exemple. Elle sert à quoi en ce moment ?
La MAC, ça n'est plus une structure de l'université. Mm-hmm. Moi, pour en avoir organisé plusieurs sur l'île, les colloques, vous savez, on peut parfaitement utiliser des structures qui ne soient pas universitaires pour des activités universitaires type colloque. Mm-hmm. Au contraire... Parce que ça coûte très cher. S'il fallait que l'université dispose dans son patrimoine pour elle-même de toutes les infrastructures pour s'en servir ponctuellement, ce ne serait pas forcément extrêmement rationnel. Mm-hmm. Mais il ne faut pas se priver d'aller chercher ailleurs. En ville, il y a des infrastructures, voire à la MAC. À ma connaissance, la dernière fois que j'en ai eu connaissance, c'était une structure municipale. Mais ça devait évoluer, donc je ne sais pas si ça a changé depuis ces dernières années. Il ne faut pas se priver d'aller chercher à l'extérieur les salles et les infrastructures qui existent. On a le Zénith, par exemple, on peut parfaitement faire des choses intéressantes au Zénith.
Alors, Lille, c'est une grande ville, du moins elle prétend en l'être. Mais je pense qu'elle est reconnue maintenant. Bon, on connaît l'île de la culture, on connaît bien l'île des universités.
Deux remarques là-dessus. Je pense que du côté des collectivités, les universités ont progressé énormément en connaissance ou en reconnaissance par les élus, par les hommes politiques ou les femmes politiques de manière générale. En travaillant sur le dossier Campus Grand Lille, en proximité des politiques et de leur environnement immédiat au niveau chef de cabinet, directeur de cabinet et de responsable, j'ai pu me rendre compte que, avec le dossier Campus, cette connaissance de ce qui se passe en recherche a progressé énormément. Ça a progressé chez les hommes politiques, dans le personnel politique, hommes et femmes, et également chez les acteurs socio-économiques, qui découvrent des pépites, des richesses, la force de ce qu'on fait dans les domaines de l'informatique, de l'électronique, les microélectroniques, les nanotechnologies, etc., quoi, par exemple. Pour donner cet exemple-là, mais il y en a bien d'autres.
Est-ce que le poids politique d'une personne influente, le maire de la grande ville, qui est proche de l'université, est aussi ou moins ou plus déterminant que la qualité de l'université dans ce repérage et dans cet accord d'aide particulière?
Je pense que dans l'évolution de ces 20 dernières années, hein, c'est pas d'aujourd'hui, mais ça monte de plus en plus fortement. Je crois que le territoire, l'université s'inscrit dans un territoire et ce territoire marque énormément la stratégie de l'université. L'université, quelle qu'elle soit, ne peut plus se construire, évoluer, organiser son projet en ne tenant pas compte de son environnement. Et son environnement, ce sont les institutions politiques, les milieux socio-économiques, tout un ensemble de décideurs qui font, et je reviens au dossier Campus Grand Lille, que ce dossier, il n'a pas été seulement porté par les présidents des trois universités, et tout particulièrement par Philippe Rollet, mais il a été soutenu fortement par Daniel Percheron, par Martine Aubry, par le président du Conseil Albert de Rosier, au Conseil général, etc. Et donc, c'est cette. Et puis derrière eux, les députés, par exemple, gauche-droite confondue. C'est cette mobilisation-là qui fait que le dossier, il est toujours d'actualité. Donc, l'université, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se fonde avec une dimension nationale, internationale, européenne, donc très large, mais qui doit penser son existence avec l'ensemble des acteurs locaux du territoire.
Donc, il est essentiel que le territoire, d'une manière générale, porte, supporte son université ou ses universités.
Alors ça, c'est ce que les collectivités, pour parler d'elles, font plus ou moins. Là où j'étais en Bourgogne, cet ancrage territorial était très très fort et la région, comme le Grand Dijon par exemple, aidait de façon considérable l'université. Ici, la région est peut-être un petit peu moins à l'aise financièrement et il y a une population très jeune avec beaucoup d'universités, donc l'effort politique et financier est certainement immense à réaliser par rapport aux capacités de la région.
Alors,
Mais les collectivités interviennent de plus en plus.
les collectivités ou la collectivité, mais bon, elles sont plusieurs à s'intéresser à l'université. Elles s'intéressent à une université en particulier ou à un ensemble universitaire?
Je pense que, par nature, la région s'intéresse à l'ensemble des universités. Et là aussi, pour avoir rencontré les hommes politiques ou participé ou être présent à l'occasion de réunions où étaient présents les hommes politiques, tous s'intéressent non pas à une ville, mais à l'ensemble universitaire dans la région. Qu'on soit à Cambrai, à Dunkerque, à Arras ou à Lille, il ne peut y avoir de réussite universitaire qu'entendue collectivement au niveau de ce qui va être constitué autour du PRESS. Le PRESS, c'est le pôle de recherche et enseignement supérieur. Ça donne une unité, une visibilité à la dimension universitaire de la région. Et je pense que chaque homme politique est bien conscient que ça ne peut pas être une université ou un établissement, aussi prestigieux soit-il, qui a la capacité à porter l'ensemble. C'est bien l'unité d'action de l'ensemble qui donne sa force et sa cohérence à l'action universitaire.
Non. Est-ce qu'il y a des projets universitaires qui sont portés par plusieurs universités dans un accord soit d'intérêt, soit d'intérêt
Le presse est à quelques temps très court de sa création juridique, puisque les statuts du presse ont été approuvés pratiquement par tous ses membres fondateurs et associés, ou pas loin. Donc il y a un décret qui devrait sortir, ça va lui permettre de se développer, de croître et embellir. Il y a déjà des commissions qui fonctionnent. Donc ça, c'est du concret et ça va se concrétiser encore plus. Il y a un autre projet qui a été fortement mis en avant à l'occasion du projet Campus Grand Lille, c'est celui du rassemblement des universités lilloises et la création de l'Université de Lille. Donc ça sont des projets qui ne font pas l'actualité immédiate, c'est pas demain matin, mais encore une fois il faut reprendre le contrat quadriennal, le projet quadriennal de notre université, l'Université de Lille 1, pour voir que ce sont des projets qui sont portés avec un horizon 4-5 ans. On parle de l'Université de Lille pour 2013. Et donc on est dans une stratégie d'évolution qui a débuté il y a déjà certainement pas mal d'années, qui va transformer l'université pour l'adapter au monde dans lequel elle vit et pour en faire une très grande et très prestigieuse université, ce qu'elle est déjà largement, comme on le disait, avec le classement de Shanghai.
Donc là, on est dans le cadre de projets structurants. Est-ce qu'en termes de projets événementiels, il y a des choses qui sont portées par un ensemble d'universités régionales ?
Là, vous me posez un peu une colle comme ça. Projet événementiel, je ne vois pas, comme dans, j'ai pas de réponse là, mm-hmm. à vous faire immédiate.
Est-ce que vous pensez que les universités ont intérêt pour attirer le regard sur la région de créer un événement, quel qu'il soit, il peut être culturel ou autre?
C'est sans doute réalisable. Moi, je pense que ce qui serait peut-être le plus facile, il y a déjà vraisemblablement des choses, c'est parce que je suis encore un peu neuf dans le poste et que je n'ai pas, vécu une année complète pour pouvoir citer des opérations. Il y a déjà pas mal de choses qui se font autour de la culture, hein, en particulier à Lille, qui est très en avance sur le plan culturel. Mais je pense qu'une manifestation d'ampleur sur le plan scientifique, un colloque, une manifestation qui serait un petit peu comme un signal à dimension internationale, sont des choses auxquelles on peut penser, mais il faut avancer dans la collaboration pour que ça prenne tout son sens. Je veux dire, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'artificiel, concret aujourd'hui, simplement par un effet d'opportunité ou de conjoncture. Il faut que ce soit le fruit et le signe d'un projet d'ensemble qui avance, hein, pour que ça prenne tout son sens. Sinon, ça n'est qu'une opération de communication. C'est important, mais c'est pas suffisant.
Alors, Patrice Cerniclet, la rentrée est largement engagée. Déjà là, tout le monde est au travail. Bon, sans faire complètement le bilan de cette rentrée, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des choses fortes qui se dégagent, des tendances ou des choses dont vous voudriez parler maintenant ?
Bon, pour moi, mon actualité directe et celle de beaucoup de collègues, elle est plutôt dans la restructuration des services qui est en marche. La semaine prochaine, le président Rollet diffusera une note pour expliquer la réorganisation de ce que sont aujourd'hui deux grands services de l'université, que sont la DLI et la DAM, qui vont évoluer assez fortement.
On peut peut-être dire DLI ?
La DLI, c'est la division de la logistique immobilière, qui va devenir P7, patrimoine, construction et études travaux, et la DAM, qui va devenir la SLAM, le service logistique assistance maintenance.
Bon, donc j'ai bien fait de ne pas retenir les sigles.
Tout à fait, tout à fait. Plus la restructuration des services qui est en cours également au bâtiment A3. Donc, vous voyez, il faut se trouver dans une évolution continue, de telle sorte à se trouver toujours en phase avec les missions telles que nous devons essayer de les remplir.
Les missions et aussi les financements ?
Vous savez, les financements, c'est une chose. Quand on parle de créer des résidences ou des bâtiments neufs, il faut de l'argent. Mais on a aussi beaucoup de ressorts, on peut avoir des idées et essayer de les mettre en place de telle sorte à créer une organisation qui soit la plus efficiente possible, compte tenu des moyens qui sont les nôtres.
Quand on
peut
voit
aussi faire un travail sur soi-même, quoi, toujours.
Mais c'est... Quand on voit la crise économique actuelle, est-ce que ça pèse sur une université à quel niveau ?
Ça ne peut pas ne pas peser. D'abord parce qu'une université, tout à l'heure on parlait de son ancrage dans le territoire, si elle reçoit de l'argent public, si elle reçoit de l'argent des collectivités, l'argent des collectivités c'est celui des contribuables. Et donc s'il y a moins d'activité, il y a moins d'argent qui rentre. Ensuite, nous travaillons au quotidien avec les entreprises. J'ai parlé d'activités de recherche. La recherche, c'est aussi de la valorisation. C'est du transfert. Et ça, ça se fait avec les milieux socio-économiques, avec les entreprises. Et donc, concrètement, signer des contrats, ça se fait mieux lorsqu'on est en période de croissance, d'expansion. Si on a une croissance à 2% ou à 2,5%, c'est pas pareil qu'une croissance à 0, quelque chose.
Donc, Patrice Saint-Niclet, vivement la sortie de crise.
Oui.
Merci d'être venu. Très bonne soirée.
Merci à vous.
Au revoir.